Germaine de Staël, Delphine, partie 2, lettres 26 à 30 comprises. Lettre 26. Delphine à Mademoiselle d'Albémare. Bellerive, 2 octobre. Eh bien, Thérèse est inflexible. Eh bien, celle à qui j'ai sacrifié tout le bonheur de ma vie ne jouira pas un seul jour du funeste dévouement de ma trop facile amitié. Louise, le récit que je vais vous faire vous inspirera de la pitié pour Thérèse. Il m'en faut aussi pour moi. Ah, que de douleurs sur la terre! Où sont-ils les heureux? En est-il parmi ceux qui seraient dignes du bonheur? Depuis quelque temps, je voyais Madame Dervin plus rarement. Un prêtre d'un couvent voisin, d'un extérieur simple et respectable, passait beaucoup d'heures seul avec elle. Moi-même, accablé de douleur et craignant, si je confiais mes peines à Thérèse, de ne pouvoir lui cacher qu'elle en était la cause involontaire, je me résignais à son goût pour la retraite, et je ne voulais pas lui parler des projets que je lui connaissais. Je comptais sur l'arrivée de M. de Serbelane et sur ses prières pour l'y faire renoncer. Mais le frère de M. Dervin étant venu à Paris, Thérèse eut hier matin un long entretien avec lui, et je me hâtai d'aller chez elle quand il fut parti pour en avoir le résultat. J'ai retenu toutes les paroles de Thérèse, et je vous les transmettrai fidèlement. Qui pourrait oublier un langage si plein d'amour et de repentir? J'ai apaisé le frère de M. Dervin, me dit-elle. Maintenant qu'il sait ma résolution, il n'a plus de haine contre moi. Cette résolution met la paix entre les ennemis. Dieu qui l'inspire la rend efficace. Mais vous à qui je dois tant, vous qui avez peut-être fait pour moi plus de sacrifices que vous ne m'en avez avoué, vous avez failli me perdre dans un mouvement de bonté. Vous aviez encouragé M. de Serbelane à revenir. Je l'ai appris à temps. J'ai pu le lui défendre. Il sera instruit que s'il me voyait, il ne pourrait me faire changer de dessein, mais qu'il renouvellerait par son retour le courroux des parents de M. Dervin, et qu'il perdrait ma fille en déshonorant sa mère. Je voulus l'interrompre, elle m'arrêta. Demain, me dit-elle, venez me chercher en vous levant. Nous nous promènerons ensemble. Je vous dirai tout ce qui se passe en moi. Je n'en ai pas la force ce soir. Il me semble que quand la nuit est venue, la présence d'un Dieu protecteur se fait moins sentir, et j'ai besoin de son appui pour vous annoncer avec courage mes résolutions. À demain donc, avec le jour, avec le soleil. Quand elle m'eut quitté, je réfléchis douloureusement sur les obstacles que sa ferveur religieuse opposerait à mes efforts, et je plaignis le triste dessein de deux nobles créatures, Thérèse et son amie. C'était moi si malheureuse, qui devais essayer de soutenir le courage de Madame Dervin, et mon cœur au désespoir était chargé de la consoler. Ah, combien souvent, dans la vie, cet exemple s'est présenté, et que d'infortunés ont encore trouvé l'art de secourir des infortunés comme eux. J'entrai chez Thérèse de très bonne heure, et je la trouvai tout habillée, priant dans son cabinet devant un crucifix qu'elle y a placé et au pied duquel elle a déjà répandu bien des larmes. Elle se leva en me voyant, ouvrit son bureau et me dit « Tenez, voilà toutes les lettres de M. de Serbellane que j'ai reçues depuis 2 mois. Je vous les remets avec son portrait. Il ne vous est point ordonné à vous de les brûler. Conservez-les pour qu'elles me survivent et que rien de lui ne périsse avant moi. » J'insistai pour qu'elle connût la lettre que m'avait écrite M. de Serbellane. En la lisant, elle rougit et pâlit plusieurs fois. « Il m'a fait dans ses lettres, reprit-elle, l'offre dont il vous parle. Il me l'a faite avec une expression bien plus vive, bien plus sensible encore. Et cependant, ma résolution est restée inébranlable. Descendons dans le jardin, je ne suis pas bien ici. L'air me donnera des forces. Il m'en faut pour vous ouvrir encore une fois ce cœur qui doit se refermer pour toujours. » Je la suivis. Ses cheveux noirs, son teint pâle, ses regards qui exprimaient alternativement l'amour et la dévotion, donnaient à son visage un caractère de beauté que je ne lui avais jamais vu. Nous nous assîmes sous quelques arbres encore verts. Thérèse, alors, tournant vers l'horizon des regards vraiment inspirés, me dit « Ma chère Delphine, je vous le confie en présence de ce soleil qui semble nous écouter au nom de son divin maître. L'objet de mon malheureux amour n'est point encore effacé de mon cœur. Avant qu'un prêtre vénérable eût accepté le serment que j'ai fait de me consacrer à Dieu, je lui ai demandé si, parmi les devoirs que j'allais m'imposer, il en était un qui m'interdit les souvenirs que je ne puis étouffer. Il m'a répondu que le sacrifice de ma vie était le seul qui fût en ma puissance. Il m'a permis de mêler aux pleurs que je verserais sur mes fautes le regret de ne pas avoir été la femme de celui qui me fut cher et de n'avoir pu concilier ainsi l'amour et la vertu. Je ne craignais dans l'état que je vais embrasser que des luttes intérieures contre ma pensée. Dès qu'on exige que mes actions, je me voue avec bonheur à l'expiation de la mort de M. d'Hervin. M. de Serbellane m'offre de m'épouser et de passer le reste de sa vie en Amérique avec moi. Juste ciel, avec quel transport je l'accepterai? Quel sentiment presque idolâtre n'éprouverai-je pas pour lui? Mais le sang, la mort nous sépare. Un spectre défend ma main de la sienne et l'enfer s'est ouvert entre nous deux. Si je succombais, j'entraînerais ce que j'aime dans mon crime, le malheureux. Il partagerait mon supplice éternel et je n'obtiendrais pas de la Providence comme des hommes de ne condamner que moi seul. Mes pleurs et mon sacrifice serviront peut-être aussi sa cause dans le ciel. « Oui, s'écria-t-elle d'une voix plus élevée, oui, je prierai sans cesse. » Et si mes prières touchent l'être suprême, ô mon ami, c'est toi qu'il sauvera. Delphine, me dit-elle en m'embrassant, pardonnez, je ne puis parler de lui sans m'égarer, et je confonds ensemble et l'amour et le sentiment qui m'ordonne d'immoler l'amour. Mais ils m'ont dit que dans le temple, après de longs exercices de piété, mes idées deviendraient plus calmes, je les crois, ces bons prêtres, qui ont fait entendre à mon âme le seul langage qui l'ait consolé. Il m'eût été beaucoup plus difficile de vivre au milieu du monde en renonçant à M. de Serbellane que de lui prouver encore, par la résolution que je prends, combien mon âme est profondément atteinte. Ce motif n'est pas digne de l'auguste état que j'embrasse. Mais ne faut-il pas aider de toutes les manières la faiblesse de notre nature? Et si je ne me sens plus de force pour revêtir les habits de la mort, en pensant que ce sacrifice obtiendra de lui des larmes plus tendres, pourquoi m'interdirais-je les idées qui me soutiennent dans ce grand combat du cœur? Un seul devoir, un seul, pouvait me retenir au monde, c'était l'éducation d'Isaure. Ma chère Delphine, c'est vous qui m'avez tranquillisée sur cette inquiétude. Je vous remettrai ma fille, la fille du malheureux dont j'ai causé la mort. Vous êtes bien plus digne que moi de former son esprit et son âme. Mon éducation négligée ne me permet pas de contribuer à son instruction, et mon cœur est trop troublé pour être jamais capable de fortifier son caractère contre le malheur. Elle a 10 ans et j'en ai 26. Le spectacle de ma douleur agit déjà trop sur ses jeunes organes. Hélas, ma chère Delphine, vous n'êtes pas heureuse vous-même. J'ai peut-être à jamais perdu votre destinée. Mais votre âme, plus habituée que la mienne à la réflexion, sait mieux contenir au regard d'un enfant les sentiments qu'il faut lui laisser ignorer. L'étendue de votre esprit, la variété de vos connaissances vous permettent de vous occuper et d'occuper les autres de diverses idées. Pour moi, je vis et je meurs d'amour. Dans cette religion à laquelle je me livre, je ne comprends rien que son empire sur les peines du cœur, et je n'ai pas dans ma faible et pauvre tête une seule pensée qui ne soit née de l'amour. Hélas, le parti que je vais prendre affligera sans doute Monsieur de Serbellane. Peut-être aurait-il goûté quelque bonheur avec moi. Ce sanglant Hyménée ne lui inspirait point d'horreur. Et pendant quelques années, du moins, il n'aurait point été troublé par l'attente d'une autre vie. Ô Delphine, il m'en a coûté longtemps pour lui causer cette peine. Il me semblait qu'un jour de la douleur d'un tel homme comptait plus que toutes mes larmes. Cependant, une idée que l'orgueil aurait repoussée m'a soulagée enfin de la plus accablante de mes craintes. Je lui suis chère, il est vrai, mais c'est moi qui lui aime 1000 fois plus qu'il ne m'a jamais aimée. Une carrière, un but à venir lui reste. Il ne donnera jamais à personne, je le crois, cette tendresse première dont je faisais ma gloire, alors même qu'elle me coûtait l'honneur et la vertu. L'amour finit avec moi pour lui. Mais une existence forte, énergique, peut le remplir encore de quelques généreuses espérances. Quant à moi, ma chère Delphine, puisqu'un devoir impérieux me sépare de lui, qu'est-ce donc que je sacrifie en me faisant religieuse? J'ai éprouvé la vie, elle m'a tout dit. Il ne me reste plus que de nouvelles larmes à joindre à celles que j'ai déjà répandues. Si je conservais ma liberté, je ne pourrais écarter de moi l'idée vague de la possibilité d'aller le rejoindre. J'aurais besoin chaque jour de lutter contre cette idée avec toutes les forces de ma volonté. Jamais je n'obtiendrai le repos. Mon ami, croyez-moi, il n'est pour les femmes sur cette terre que 2 asiles, l'amour et la religion. Je ne puis reposer ma tête dans les bras de l'homme que j'aime. J'appelle à mon secours un autre protecteur qui me soutiendra quand je penche vers la terre, quand je voudrais déjà qu'elle me reçût dans son sein. Le malheur a ses ressources. Depuis 1 mois, je l'ai appris. J'ai trouvé dans les impressions qu'autrefois je laissais échapper sans les recueillir, dans les merveilles de la nature que je ne regardais pas, des secours, des consolations qui me feront trouver du calme dans l'état que je vais embrasser. Enfin, il me sera permis de rêver et de prier. Ce sont les jouissances les plus douces qui restent sur la terre aux âmes exilées de l'amour. Peut-être que par une faveur spéciale, les femmes éprouvent d'avance les sentiments qui doivent être un jour le partage des élus du ciel. Mais, si j'en crois mon cœur, elles ne peuvent exister de cette vie active, soutenue, occupée, qui fait aller le monde et les intérêts du monde. Il leur faut quelque chose d'exalté, d'enthousiaste, de surnaturel, qui porte déjà leur esprit dans les régions éthérées. J'ai confondu dans mon cœur l'amour avec la vertu, et ce sentiment était le seul qui put me conduire au crime par une suite de mouvements nobles et généreux. Mais que le réveil de cette illusion est terrible. Il a fallu, pour la faire cesser, que je devinsse l'assassin de l'homme que j'avais juré d'aimer. Oh, quel affreux souvenir, et quel serait mon désespoir si la religion ne m'avait pas offert un sacrifice assez grand pour me réconcilier avec moi-même. Il est fait ce sacrifice et Dieu m'a pardonné, je le sais, je le sens. Mes remords sont apaisés. La mélancolie des âmes tendres et douces est rentrée dans mon cœur. Je communique encore par elle avec l'être suprême. Et si dans un autre monde mon malheureux époux a perdu son irritable orgueil, s'il lit au fond des cœurs, lui-même aussi, lui-même aura pitié de moi. Thérèse s'arrêta en prononçant ces dernières paroles et retint quelques larmes qui remplissaient ses yeux. J'étais aussi profondément émue, et je rassemblais toutes mes pensées pour combattre le dessein de Thérèse. Mais au fond de mon cœur, je vous l'avouerai, je ne la désapprouvais pas. Je n'ai point les mêmes opinions qu'elle sur la religion. Mais j'aimerais cette vie solitaire, enchaînée, régulière, qui doit calmer enfin les mouvements désordonnés du cœur. Je voulus cependant épouvanter Thérèse en lui peignant les regrets auxquels elle s'exposait. Mais elle m'arrêta tout à coup. « Oh, que me direz-vous, mon ami, s'écria-t-elle, qu'il ne m'ait pas écrit, que mon amour plus éloquent encore que lui n'ait pas plaidé pour sa cause dans mon cœur. Ne parlons plus sur l'irrévocable, dit-elle en m'imposant doucement silence. Mes serments sont déjà déposés aux pieds du Tout-Puissant. Il me reste à les faire entendre aux hommes. Mais le lien éternel m'enchaîne déjà, sans retour. Je ne vous ai point dit que je serais heureuse. Il n'y avait de bonheur sur la terre que quand je le voyais, quand il me parlait. Sa voix seule ranimait dans mon sein les jouissances vives de l'existence. Mais je n'ai plus à craindre ces peines violentes où la vengeance divine imprime son redoutable pouvoir. Désormais étrangère à la vie, je la regarderai couler comme ce ruisseau qui passe devant nous et dont le mouvement égal finit par nous communiquer une sorte de calme. Le souvenir de ma destinée agitera peut-être encore quelque temps ma solitude. Mais enfin, ils me l'ont promis, ce souvenir s'affaiblira. Le retentissement lointain ne se fera plus entendre que confusément. C'est ainsi que je commencerai à mourir et que je m'endormirai, béni d'un Dieu clément, et cher peut-être encore à ceux qui m'ont aimé. Je pars aujourd'hui pour Bordeaux, avec mon beau-frère, continua Thérèse. J'y resterai quelques mois. Je reviendrai chez vous avant de prendre le voile, pour vous ramener Isaure et vous remettre tous mes droits sur elle. Je vous en conjure, ma chère Delphine. Ne nous abandonnons plus à notre émotion. Je n'ai pu contenir mon âme en vous parlant aujourd'hui. Vous avez dû voir que Thérèse n'était pas encore devenue insensible. Jamais elle ne le sera. Mais je dois tâcher de le paraître pour recueillir quelque bien de la résolution que j'ai prise. Il faut se dominer. Il faut ne plus exprimer ce qu'on éprouve. C'est ainsi qu'on peut étouffer, m'a-t-on dit, les sentiments dont la religion doit triompher. Ma chère Delphine, ma généreuse amie, retenez ce dernier accent. Ce sont les adieux qui précèdent la mort. Vous n'entendrez plus la voix qui sort du cœur. Adieu. Thérèse me quitta. Je ne la suivis point. Je restai quelque temps seule pour me livrer à mes larmes. Je sentis d'ailleurs que ce n'était pas au moment de son départ que je pourrais produire aucune impression sur elle, et j'espérais davantage de mes lettres pendant son absence. Quand je rentrai, le frère de M. Dervin était arrivé. Thérèse fit les préparatifs de son voyage avec une singulière fermeté. Isaure pleura beaucoup en me quittant. Sa mère, en descendant pour partir, détourna la tête plusieurs fois afin de ne pas voir l'émotion de cette pauvre petite. Thérèse monta en voiture sans me dire un mot. Mais en prenant sa main, je reconnus à son tremblement quelle douleur elle éprouvait. Thérèse, être si tendre et si doux, me répétai-je souvent quand elle fut partie. Cette force que vous ne tenez pas de vous-même, vous soutiendra-t-elle constamment? Ne sentirez-vous pas se refroidir en vous l'exaltation d'une religion qui a tant besoin d'enthousiasme? Et ne perdrez-vous pas un jour cette foi du cœur qui vous aveugle sur tout le reste? Hélas, et moi qui me crois plus éclairée, que deviendrai-je? L'espérance d'une vie à venir, les principes qui m'ont été donnés par un être parfaitement bon, les idées religieuses, raisonnables et sensibles, ne me rendront-elles donc pas à moi-même? Et l'amour ne peut-il être combattu que par des fantômes superstitieux qui remplissent notre âme de terreur? Louise, la douleur remet tout en doute. Elle en est contente d'aucune de ses facultés, d'aucune de ses opinions, quand on a pu s'en servir contre les peines de la vie. Lettre 27. Delphine à Mademoiselle d'Albémare. Bellerive, ce 14 octobre. Je vous prie, ma chère Louise, de remettre à monsieur de Clarimin ce billet, par lequel je me rends caution de 60 000 livres que madame de Vernon lui doit. Obtenez de lui, je vous en conjure, qu'il cesse de la calomnier. Il est dans sa terre, à quelques lieues de vous. Il vous sera facile de l'engager à venir vous parler. Dès que j'aurai reçu votre réponse et que je pourrai tranquilliser madame de Vernon, les affaires qui la retiennent ici seront terminées et nous partirons ensemble pour le Languedoc. Moi pour vous rejoindre, elle pour m'accompagner et pour passer l'hiver dans les pays chauds. Les médecins disent que sa poitrine est très affectée. Elle paraît elle-même se croire en danger. Mais elle s'en occupe singulièrement peu. Ah, si j'étais condamnée à la perdre, cette amère douleur m'ôterait le reste de mes forces. Je n'ai point appris par madame de Vernon l'embarras dans lequel elle se trouvait. Le hasard me l'a fait découvrir et je le savais seulement de la veille, lorsque madame de Mondoville et madame de Vernon vinrent avant-hier chez moi. Je pris madame de Mondoville à part et je lui demandai si ce que l'on m'avait dit des plaintes de monsieur de Clarimin contre sa mère était vrai. Oui, me répondit-elle, ma mère voulait que je m'engageasse pour les 60 000 livres qu'elle lui doit pendant l'absence de monsieur de Mondeville. Je l'ai refusé, car je n'ai le droit de disposer de rien sans le consentement de mon mari, et ma mère ne veut pas que je le demande. Vous savez que je mets fort peu d'importance à la fortune, mais je prétends être stricte dans l'accomplissement de mes devoirs. Elle disait vrai, Louise, elle ne met point d'importance à l'argent. Mais sa mère serait mourante qu'elle ne sacrifierait pas une seule de ses idées sur la conduite qu'elle croit devoir tenir. Je ne sais pas bien, lui dis-je vivement, quel est le devoir au monde qui peut empêcher d'être utile à sa mère. Mais enfin, elle m'interrompit à ces mots avec humeur, car les attaques directes l'irritent d'autant plus qu'elle n'aperçoit jamais que celle-là. « Vous croyez apparemment, ma cousine, me dit-elle, qu'il n'y a de principe fixe sur rien. Et que serait donc la vertu si l'on se laissait aller à tous ces mouvements ?»« Et la vertu, lui dis-je, est-elle autre chose que la continuité des mouvements généreux ?»« Enfin, laissons ce sujet. C'est moi qui le regarde, et moi seule. » Madame de Vernon, s'approchant de nous, interrompit notre entretien. En la voyant au grand jour, je fus douloureusement frappée de sa maigreur et de son abattement. Jamais je n'avais senti pour elle une amitié plus tendre. Madame de Mondeville retourna à Paris. Je gardai Madame de Vernon chez moi, et le lendemain, à son réveil, je lui portai une assignation de 60 000 livres sur mon banquier, en la suppliant de l'accepter. « Non, me dit-elle, je ne le puis. C'était à ma fille pour qui j'ai tout fait de me tirer de l'embarras où je suis. Elle ne le veut pas, c'est peut-être juste. Je ne l'ai pas assez formée pour moi. J'ai remis son éducation à d'autres. Nous ne pouvons ni nous entendre ni nous convenir. Mais ce n'est pas vous, non, ce n'est pas vous en vérité, ma chère Delphine, qui devez me rendre un tel service. » Pourquoi donc me refusez-vous ce bonheur, lui dis-je. Il y a 2 ans que vous y aviez consenti, nouvellement encore dans le mariage de votre fille. Ah, s'écria-t-elle, le mariage de ma fille. Et puis tout à coup, s'arrêtant, elle reprit. Depuis quelque temps, j'ai du malheur en tout, peut-être des torts. Mais enfin, dans l'état où je suis, tout cela ne sera pas long. Ne voulez-vous pas empêcher que M. de Clarimain ne vous accuse ? Je le croyais, mon ami, me dit-elle en soupirant. Se peut-il que je me sois fait des illusions ? Je n'y étais pas cependant disposée. Enfin, il veut me perdre dans le monde et me ruiner en saisissant ce que je possède. Il a tort, car je dois mourir bientôt, et il est dur de m'ôter à présent l'existence à laquelle j'ai sacrifié toute ma vie. Au nom de Dieu, lui dis-je en versant des larmes, repoussez ces horribles idées et ne refusez pas le service que je vous conjure d'accepter. J'ai des peines, de cruelles peines, vous le savez. Voulez-vous me ravir le seul bonheur que je puisse tirer de mon inutile fortune ? Eh bien, me répondit Madame de Vernon, je vous crois généreuse. Quand je mourrai, quoi qu'il arrive après moi, vous ne vous repentirez point de m'avoir rendu un dernier service. Il n'est pas nécessaire que vous me prêtiez ce que je dois. Votre caution suffit, et je l'accepte. » Il y avait, dans l'accent de Madame de Vernon, quelque chose de triste et de sombre qui me fit beaucoup de peine. Pauvre femme. Les injustices des hommes ont peut-être aigri ce caractère si doux, troublé cette âme si tranquille. Ah, que les cœurs durs font de mal. Je lui dis quelques mots sur son goût pour le jeu. Hélas, reprit-elle, vous ne savez pas combien il est difficile d'être femme sans fortune, sans jeunesse et sans enfants qui nous entourent. On essaie de tout pour oublier cette pénible destinée. Je ne voulus pas insister sur les pertes qu'elle s'exposait à faire dans un moment où je venais de lui rendre service, et je cherchais à la ramener sur d'autres sujets de conversation. Le soir, il vint assez de monde me voir. On savait que Madame Dervin, pour qui j'avais dit que je quittais la société, n'était plus à Bellerive. Mon départ annoncé avait attiré chez moi plusieurs personnes qui croient toutes qu'elles me regrettent et dont la bienveillance s'est singulièrement ranimée en ma faveur par l'idée de ma prochaine absence. Pendant que ce cercle étroit était réuni dans le salon de Bellerive, Madame de Lébancé y arriva avec son mari qu'elle m'avait promis de m'amener. Quand elle vit cette société nombreuse, elle fut entièrement déconcertée et descendit dans le jardin, sous prétexte de prendre l'air. Il me fut impossible de la retenir, et peut-être valait-il mieux en effet qu'elle s'éloignât, car tous les visages des femmes s'étaient déjà composés pour cette circonstance. M. de Lébancé ne s'en alla point. Je remarquai même que c'était avec intention qu'il restait. Il voulait trouver l'occasion de témoigner son indifférence pour les malveillantes dispositions de la société. Il avait raison, car sous la proscription de l'opinion, une femme s'affaiblit, mais un homme se relève. Il semble qu'ayant fait les lois, les hommes sont les maîtres de les interpréter ou de les braver. L'esprit de M. de Lébancé me frappa beaucoup. il n'eut pas l'air de se douter du froid accueil qu'on destinait à sa femme. Il parla sur des objets sérieux, avec une grande supériorité, n'adressa la parole à personne excepté à moi, et trouva l'art d'indiquer son dédain pour la censure dont il pouvait être l'objet, sans jamais l'exprimer. Un air insouciant, un ton calme, des manières nobles, remettaient chacun à sa place. Il ne changeait peut-être rien à la manière de penser, mais il forçait du moins au silence, et c'est beaucoup. Car dans ce genre, l'on s'exalte par ce qu'on se permet de dire, et l'homme qui oblige à des égards en sa présence est encore ménagé lorsqu'il est absent. Quand Madame de Lébancé fut revenue près de nous après le départ de la société, M. de Lébancé continua à montrer l'indépendance de caractère et d'opinion qui le distingue, et je sentis que sa conversation, en fortifiant mon esprit, me faisait du bien. Du bien. Ah, de quel mot me suis-je servi ? Hélas, si vous saviez dans quel état est mon âme. Mais, puisque je me suis promis de me contraindre, il faut en avoir la force, même avec vous. Lettre 28. Delphine à Mademoiselle d'Albemarle, Paris, 16 octobre. Avant de nous réunir pour toujours, ma chère sœur, il faut que je m'explique avec vous sur un sujet que j'avais négligé, mais que vous développez trop clairement dans votre dernière lettre. Cette lettre est supprimée. Pour que je puisse me dispenser d'y répondre. Vous me dites que M. de Valorbe a toujours conservé le même sentiment pour moi, qu'il n'a pu quitter depuis un an sa mère qui est mourante, mais qu'il vous a constamment écrit pour vous parler de son désir de me voir et de son besoin de me plaire. Vous m'a rappelé aussi ce que je ne puis jamais oublier, c'est qu'il a sauvé la vie à M. d'Albemarle il y a 10 ans. Et que votre frère conservait pour lui la plus vive reconnaissance. Vous ajoutez à tout cela quelques éloges sur le caractère et l'esprit de M. de Valorbe. Je pourrais bien n'être pas à cet égard de votre avis, mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Si vous aviez connu Léonce, vous ne croiriez pas possible que jamais je devinsse la femme d'un autre. Je serais très affligée, je l'avoue, si les obligations que nous avons à M. de Valorbe vous imposaient le devoir de l'admettre souvent chez vous. Je ne pense pas, vous le croyez bien, à revoir Léonce de ma vie. Mais s'il apprenait que je permets à quelqu'un de me rechercher, il croirait que je me console. Il n'aurait pas l'idée qui peut lui venir une fois de plaindre mon sort. Et tous les hommages de l'univers ne me dédommagerait pas de la pitié de Léonce. C'en est assez. Maintenant que vous connaissez les craintes que j'éprouve, je suis bien sûre que vous chercherez à me les épargner. Dès que vous m'aurez mandé si M. de Clarimin accepte ma caution, nous partirons. Madame de Vernon désire que je vous prie de l'accueillir avec amitié. Ma chère sœur, je vous en conjure, ne soyez pas injuste pour elle. Si je ne puis vaincre les préventions que vous m'exprimiez en... Si je ne puis vaincre les préventions que vous m'exprimez encore dans votre dernière lettre, au moins soyez touché des soins infinis... Au moins soyez touché des soins infinis qu'elle a eus pour moi. Ces soins supposent beaucoup de bonté. Depuis le départ de Léonce pour l'Espagne, je suis presque méconnaissable. Une femme d'esprit a dit que la perte de l'espérance changeait entièrement le caractère. Je l'éprouve. J'avais, vous le savez, beaucoup de gaieté dans l'esprit. Je m'intéressais aux événements, aux idées. Maintenant, rien ne me plaît, rien ne m'attire. Et j'ai perdu avec le bonheur tout ce qui me rendait aimable. Quel état, cependant, pour une personne dont l'âme était si vivement accessible à toutes les jouissances de l'esprit et de la sensibilité. J'aimais la société presque trop. Elle m'était souvent nécessaire et toujours agréable. À présent, je n'en puis supporter qu'une seule, celle de Madame de Vernon. Louise, récompensez-la donc par votre bienveillance des consolations qu'elle m'a données. Jamais on n'a mis dans l'intimité tant de désirs de plaire. Jamais on n'a consacré un esprit si fait pour le monde au soulagement de la douleur solitaire. Je vous le dis, ma sœur, et vous finirez par l'éprouver. Madame de Vernon est une personne d'un agrément irrésistible. J'ai connu des femmes piquantes et spirituelles. Je comprenais facilement, quand elles parlaient, comment on était aimable comme elles. Et si je l'avais voulu, j'aurais réussi par les mêmes moyens. Mais chaque mot de Madame de Vernon est inattendu, et vous ne pouvez suivre les traces de son esprit, ni pour l'imiter, ni pour le prévoir. Si elle vous aime, elle vous l'exprime avec une sorte de négligence qui porte la conviction dans votre âme. Il semble que c'est à elle-même qu'elle parle quand des mots sensibles lui échappent, et vous les recueillez quand elle les laisse tomber. Ma vie n'appartient plus qu'à vous et à Madame de Vernon. De grâce, que je ne vous vois pas désunie. Elle m'est devenue plus nécessaire encore qu'elle ne me l'était. C'est un dernier sentiment que j'ai saisi plus fortement que jamais dans le naufrage de mon bonheur. Mais je n'ai pas besoin d'insister davantage. Vous la trouverez, hélas, assez triste et bien malade. Votre bon cœur s'intéressera certainement pour elle. Lettre 29. Léonce à Monsieur Barton, Bordeaux, ce 30 octobre. Une fièvre violente m'a forcé de rester ici près d'un mois. Je l'ai caché à ma famille à Paris. Ma mère seule l'a su. Je ne voulais pas que personne, excepté elle, se mêlât de s'intéresser à moi. Le premier jour de cette fièvre, je vous ai écrit je ne sais quelle lettre insensée, qui contenait, je crois, des expressions insultantes pour Madame d'Albémare. Je vous prie de la brûler. J'étais dans le délire. Ce n'est pas que rien justifie Delphine des torts dont je l'accuse, mais pour tout autre que moi, elle est, elle doit être un ange. Si vous saviez comment on parle d'elle ici, elle n'y a demeuré que 2 mois. Mais n'est-ce pas assez pour qu'on ne puisse pas l'oublier? J'essaierai demain de pénétrer jusqu'à Madame d'Hervin. Elle ne veut voir personne. Elle est résolue, m'a-t-on appris, à se faire religieuse. Elle doit remettre sa fille à Madame d'Albémare. Cet enfant parle de Delphine avec transport. Je verrai au moins cet enfant. Ne trouvez-vous pas qu'il y a un mystère singulier dans tout? Il me semble que, dans votre dernière lettre, vous vous exprimez moins bien sur Madame d'Albémare. Vous avez eu tort de recevoir aucune impression par ce que je vous ai écrit. Je n'en dois faire sur personne. Conservez votre admiration pour Madame d'Albémare, je serais malheureux de penser que je l'ai diminuée. Il circule des bruits sur Madame d'Hervin, mais c'est impossible. La première fois qu'on me les a dit, j'ai tressailli. Depuis, on les a démentis, tout à fait démentis. Adieu, mon cher maître. J'irai voir Madame d'Hervin. D'où vient que cette idée me bouleverse? Elle est l'amie de Delphine. Monsieur de Sarbellane est allé en Toscane par mer. Il ne voulait donc pas venir en France. Je ne sais où j'en suis. Lettre 30. Léonce à Delphine. Bordeaux, ce 22 octobre. Delphine, ô femme autrefois tant aimée, Un enfant m'a-t-il révélé ce que la perfidie la plus noire aurait trouvé l'art de me cacher? La voix des hommes vous avait accusé. La voix d'un enfant, cette voix du ciel, vous aurait-elle justifié? Écoutez-moi. Voici l'instant le plus solennel de votre vie. Je suis lié pour toujours, je le sais. Il n'est plus de bonheur pour moi. Mais si j'étais seule coupable et que Delphine fût innocente, mon cœur aurait encore du courage pour souffrir. Hier, j'ai été chez Madame Dervin. Quelque irritée que je fusse, je voulais entendre parler de vous par ceux qui vous aiment. Madame Dervin, toujours livrée aux exercices de piété, a refusé de me voir. Isaure, sa fille, jouait dans le jardin. Je me suis approchée d'elle. On m'avait dit qu'elle vous aimait à la folie. Je l'ai fait parler de vous, et j'ai vu que l'impression que vous produisez était déjà sentie, même à cet âge. Vous l'avouerai-je enfin, j'ai osé interroger Isaure sur vos sentiments. Des circonstances inouïes avaient plusieurs fois ranimé et détruit mon espoir. J'en accusais quelquefois confusément l'adresse d'une femme. J'espérais que la candeur d'un enfant déconcerterait les calculs les plus habiles. Madame d'Albémar doit se charger de vous, ai-je dit à Isaure. Elle vous emmènera sûrement en Toscane. En Toscane, pourquoi ? Me répondit-elle. Je serais bien fâchée d'aller en Italie. C'est lorsque maman a tant aimé ce pays-là que nous avons été si malheureux. Mais votre mère, lui dis-je, n'a-t-elle pas toujours aimé l'Italie ? Elle y est née. Oh, reprit Isaure, elle l'avait quittée si enfant qu'elle ne s'en souvenait plus, mais monsieur de Cerbellane lui a tout rappelé. Monsieur de Cerbellane vous déplaît-il ? Continuai-je. Non, il ne me déplaît pas, répondit Isaure. Mais depuis qu'il est venu chez maman, il a toujours pleuré. Toujours pleuré, répétai-je avec une vive émotion. Et Madame d'Albémar, que faisait-elle alors ? Elle consolait maman, elle est si bonne. Oh, sans doute, elle l'est, m'écriai-je. Et dans ce moment, Delphine, je sentis mon cœur revenir à vous. Mais cependant, ajoutai-je, elle épousera monsieur de Cerbellane. Monsieur de Cerbellane interrompit Isaure avec la vivacité qu'ont les enfants quand ils croient avoir raison. Monsieur de Cerbellane ? Oh, c'est maman qui l'aimait, ce n'est pas madame d'Albémar. Et puisque maman veut se faire religieuse, elle n'épousera pas monsieur de Cerbellane, et madame d'Albémar n'ira sûrement pas en Italie. À ces mots, la gouvernante d'Isaure la prit brusquement par la main et l'emmena en lui faisant une sévère réprimande. Je ne prévoyais pas que j'entraînais cet enfant à faire du tort à sa mère. Mais ce mot qu'elle m'a dit, grand Dieu, que signifie-t-il? Ce serait madame Dervin qui aurait aimé monsieur de Cerbellane. Ce serait pour la sauver que vous auriez pris aux yeux du monde l'apparence de tous les torts. Vous seriez une créature sublime quand je vous accusais de parjure, et moi, je mériterais. Non, je ne mériterais pas ce que j'ai souffert. Cependant, comment puis-je le croire? N'ai-je pas une lettre de vous que je tiens de madame de Vernon, dans laquelle vous me dites de m'en rapporter à ce qu'elle me confiera de votre part? N'a-t-elle pas gardé le silence? Ne s'est-elle pas embarrassée comme une amie confuse de vos torts envers moi lorsque je l'ai interrogée sur les détails que j'avais appris en arrivant à Paris et qui se répandaient dans la société à l'occasion de la mort de M. Dervin? Ces détails qui me causaient tous une douleur nouvelle, c'était votre attachement pour M. de Cerbellane, vos engagements pris à Bordeaux avec lui, l'instant d'incertitude que mes sentiments pour vous avait fait naître dans votre âme, la délicatesse qui vous avait ramené à votre premier amour, l'obligation où vous étiez de suivre M. de Cerbellane après qu'il s'était battu pour vous, et lorsque le séjour de la France lui était interdit. Ne m'avez-vous pas dit vous-même qu'il était parti quand il ne l'était pas? N'a-t-il pas passé 24 heures enfermé chez vous? Oh, je reprends en écrivant ces mots tous les mouvements que je croyais calmer. Monsieur de Serbellan, à l'instant même où il avait tué Monsieur d'Hervin, ne vous a-t-il pas nommé? Vos gens au tribunal ne vous ont-ils pas cité seuls? N'avez-vous pas été chercher le portrait de Monsieur de Serbellan? Ne receviez-vous pas sans cesse de ses lettres? Avez-vous nié à personne que vous dussiez l'épouser? N'avez-vous pas demandé un sauf-conduit pour lui? Mais si toute cette conduite n'était qu'un dévouement continuel à l'amitié, vous seriez... Mais vous n'auriez pas cessé de m'aimer, et il vaudrait encore la peine de vivre. Si vous n'avez pas été coupable, si Madame de Vernon a su la vérité, si vous l'aviez chargée de me la dire, jamais la fausseté n'a employé de moyens plus infâmes, plus artificieux, plus combinés. Je serai vengée. Si son cœur insensible peut recevoir une blessure, si... Mais ce n'est pas de son sort que je dois vous occuper. Qui pourra jamais comprendre ce génie du mal qui a disposé de moi? Madame de Vernon me remit une lettre de ma mère, qui me conjurait de tenir la promesse qu'elle avait donnée de me marier avec Mathilde. Elle me parlait de vous avec amertume. Dans un autre temps, rien de ce qu'elle aurait pu me dire n'aurait fait impression sur moi. Mais il me semblait que sa voix était prophétique et me prédisait l'événement qui venait d'anéantir mon sort. Ma mère m'adjurait, au nom du repos de sa vie, d'accomplir sa promesse. Il ne suffisait pas de mon devoir envers elle pour me condamner au malheur que j'ai subi. Il fallait que Madame de Vernon s'emparât de mon caractère, avec une habileté que je ne sentis pas alors, mais qui depuis, en souvenir, m'a quelquefois saisi d'un insurmontable effroi. Il n'y avait pas un défaut en moi qu'elle n'irrita. Elle vous défendait avec chaleur et me blessait jusqu'au fond de l'âme par sa manière de vous justifier. Elle m'exagérait le tort que vous vous étiez fait dans le monde, en passant pour la cause du duel de M. d'Hervin avec M. de Serbellan, et me proposait en même temps de vous engager, au nom de mon désespoir, à m'accorder votre main. C'est ainsi qu'elle révoltait ma fierté. En me rappelant aujourd'hui tous ces discours, il se peut qu'elle ne m'ait pas dit précisément que vous aimiez M. de Serbellan. Mais elle a mis, si cela n'est pas plus de ruse à me le faire croire, qu'il n'en fallait pour le dire. J'éprouvais, en l'écoutant, une contraction inouïe. J'avais le front couvert de sueur. Je me promenais à grands pas dans sa chambre. Je m'écartais et je me rapprochais d'elle, avide de ses discours et redoutant leur effet. Mon âme était fatiguée de cette conversation, comme par une suite de sensations amères, par une longue vie de peine. Et cette fatigue, cependant, ne lassait point mon agitation. Elle me rendait seulement tous les mouvements plus douloureux. Cette femme, je ne sais par quelle puissance, agitait mes passions comme un instrument qui s'ébranlait à sa volonté. Toutes les pensées que je fuyais, elle me les offrait en face. Tous les mots qui me faisaient mal, elle les répétait. Et cependant, ce n'était pas contre elle que j'étais irritée. Car il me semblait toujours qu'elle voulait me consoler, et que la peine que j'éprouvais n'était causée que par des vérités qui lui échappaient ou qu'elle ne pouvait réussir à me cacher. Elle allait chercher en moi tout ce que je peux avoir d'irritabilité sur tout ce qui tient à l'opinion et à l'honneur, pour me convaincre, sans me le prononcer, que je serais avilie si je montrais encore mon attachement pour une femme publiquement livrée à un autre, ou si seulement je paraissais indifférent au scandale qu'avait causé la mort de M. d'Hervin. Ce qu'elle disait pouvait convenir également au tort de légèreté, si je ne vous avais cru coupable que de cela, ou au tort du sentiment. Mais je saisissais surtout ce qui aigrissait ma jalousie. Madame de Vernon a fait de moi ce qu'elle a voulu, non par l'empire des affections, mais en excitant tous les mouvements amers que le ressentiment peut inspirer. Quel art, si c'est de l'art! Je n'ai encore rien entrevu que confusément. Mais les plus généreuses vertus et les plus vils des crimes ne pourraient-ils pas s'être réunis pour me perdre? Delphine, Si cette espérance que je saisis m'a déçue, si cet enfant n'a pas dit la vérité, ne me répondez pas. J'entendrai votre silence et je retomberai dans l'état dont je suis un moment sorti. Que signifiait une lettre de votre propre main? Comment fallait-il la comprendre? Et tous les mystères du jour fatal, des jours qui l'ont précédé et de ceux qui l'ont suivi? Ah, ne me cachez rien. Le secret fait tant de mal. Depuis mon mariage même, depuis bientôt 5 mois, Madame de Vernon se serait-elle encore servie de sa fatale connaissance de mon caractère pour hériter en moi la jalousie par la fierté par la jalousie, pour empoisonner les peines de l'amour par l'orgueil et me déchirer à la fois par tous les bons et les mauvais mouvements de mon âme? Delphine, le cœur de Léon s'est resté le même. Si le vôtre n'a point été coupable, souvenez-vous du temps où vous vous confiez à lui. Hélas, hélas, depuis ce temps, un lien funeste, et ce serait la fausseté la plus insigne qui... Ne craignez rien pour Madame de Vernon ni pour sa fille, qu'une bonté cruelle ne vous inspire pas encore de me sacrifier à des ménagements pour les autres. Je voulais, après avoir vu Isaure, retourner à l'instant même à Paris. Mais j'ai reçu une lettre de ma mère qui, s'inquiétant de mon séjour à Bordeaux et me croyant fort malade, voulait, malgré l'état de sa santé, se mettre en route pour me rejoindre. J'ai dû la prévenir et je pars. Si c'est vous dont l'image doit régner sur ma vie, je pars pour accomplir envers ma mère les devoirs que vous me recommanderiez. S'il faut vous perdre, c'est en Espagne que reposent les cendres de mon père. C'est en Espagne qu'il faut aller mourir. Delphine, songez avec quelle émotion je vais passer les jours qui me séparent de votre réponse. Je serai à Madrid le 1er de novembre. Si vous êtes à Bellerive, ma lettre aura pu retarder de quelques jours jusqu'au 25. Pendant un mois, j'attendrai. J'ai fixé ce terme à mon espérance. Jusqu'au 25, mon anxiété sera sans doute cruelle. Mais que servirait-il de vous la peindre? Elle ne vous impose qu'un devoir, la vérité.